Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Gindel.
Grand plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre notre journal, mais voici d'abord les titres. Bonne nouvelle pour les pays africains, notamment la RDC. Le Congrès des États-Unis a renouvelé la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique connue sous le nom d'AGOA. Cette loi permet aux pays africains, dont la RDC, d'exporter plusieurs produits vers les États-Unis sans droit de douane. OCHA indique que la situation humanitaire en République démocratique du Congo demeure alarmante. L'insécurité alimentaire atteint un niveau critique. Près d'un Congolais sur quatre peine à couvrir ses besoins alimentaires de base, ajoute cette structure. La paie des salaires des enseignants en RDC reste un défi important. Dans la province du Haut-Lomami, par exemple, les enseignants du territoire du Malemankulu revendiquent le paiement de leurs arriérés des salaires de 3 mois. Cette thématique était débattue dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier. Vous allez suivre tour à tour les co-débatteurs dans cette émission animée par Guy Maté Tsongou. Encore une fois, bonjour à tous. Bonne nouvelle pour les pays africains, notamment la RDC. Le Congrès des États-Unis a renouvelé la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, connue sous le nom d'AGOA jusqu'au 31 décembre 2026. Cette loi permet aux pays africains, dont la République démocratique du Congo, d'exporter plusieurs produits vers les États-Unis sans droit de douane. Une décision saluée par le gouvernement congolais à travers le ministre des Commerces extérieurs, Julien Paluku-Kahunga, qui estime que ces renouvellements constituent une opportunité majeure pour les opérateurs économiques congolais appelés à en tirer pleinement profit. Par ailleurs, le ministre du Commerce extérieur dit avoir été rassuré hier mercredi à Dubaï de l'achèvement de la première phase des travaux de construction et de modernisation du port en eau profonde de Banana d'ici la fin de l'année 2026. On écoute le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku-Kahunga, dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
Ce renouvellement est pour nous un signal fort parce que vous vous rappelez qu'en 2024, nous étions à Washington lorsque nous avions décroché l'organisation du Forum AGOA à Kinshasa. Depuis lors, la loi avait été suspendue. Mais comme elle vient d'être reconduite, nous sommes très satisfaits. Nous lançons un appel à nos opérateurs économiques particulièrement, qui sont dans le secteur agro-industriel, que les produits qui sont aujourd'hui concernés par la loi AGOA sont particulièrement les cafés, les cacao, l'huile de palme, mais également beaucoup d'autres produits parce que nous avions listé un ensemble de 26 produits qui sont concernés par les préférences commerciales. Et donc, cela permet à nos populations de revenir, comme je l'ai dit toujours, aux sources, revenir aux champs, cultiver davantage, parce qu'au-delà des marchés que nous avons conquis ailleurs, aujourd'hui, les marchés américains sont à la disposition des Congolaises et des Congolais pour écouler leurs produits. Une autre bonne nouvelle, effectivement, c'est que nous avons rencontré le CEO, qui est le chairman de DP World, qui nous a rassuré que le projet évolue très bien et qu'à la fin de cette année 2026, eh bien, la première partie du port en eau profonde de Banana sera plus ou moins achevé et que les premières cargaisons vont déjà commencer à atterrir à Banana, ce qui va fluidifier le flux commercial entre nous et le reste du monde.
L'actualité, c'est aussi ce tête-à-tête Félix-Antoine Tshisekedi, George Jovavich, président de la Bank of United States, hier mercredi à Washington. Au menu, le renforcement du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis en matière notamment de la commercialisation des minerais critiques congolais, la transformation locale et la création des chaînes de valeur industrielles et enfin les projets structurants du corridor de l'Obito et du barrage d'Inga. Restons dans ces chapitres économiques pour vous signaler la tenue hier mercredi, toujours à Washington, de la tenue de la réunion ministérielle inaugurale pour les minéraux critiques. Ces assises présidées par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. But de cette rencontre, renforcer et diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales afin de réduire la domination de la Chine dans ces secteurs stratégiques. Un accent particulier est mis sur la République démocratique du Congo. Élisée Chikota nous en dit plus.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de Project Volt, un plan de l'administration Trump destiné à créer une réserve stratégique américaine des minéraux critiques tels que les terres rares, le cobalt et le lithium, financés à hauteur de 12 milliards de dollars. Selon les organisateurs, des délégations de plus de 50 pays sont attendues, incluant des représentants d'Europe, d'Asie et d'Afrique. La RDC y participe avec la présence annoncée du président Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo occupe une place centrale dans cette réunion. Leurs récents échanges bilatéraux, notamment avec le ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, marquent une nouvelle étape du partenariat stratégique RDC-États-Unis. Washington a exprimé son ouverture à un accord de type minerai contre sécurité qui offrirait un accès privilégié aux ressources congolaises, cuivre, cobalt et coltan, en contrepartie d'investissements américains dans les infrastructures.
Retour au pays pour vous signaler que les ouvriers de l'entreprise Arab Contractor, chargés des travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kamwecha, boudent. Ils observent une grève depuis lundi. Le chantier concerne le premier lot long de 75 km reliant Kamwecha au Kasaï à Mbulungu dans le Kasaï central. À l'origine de ces mouvements de colère, les travailleurs dénoncent l'absence des contrats de travail, affirmant exercer leurs fonctions depuis plus de 4 ans sans être officiellement engagé. Il reproche également à l'entreprise d'effectuer des retenues mensuelles sur leur salaire au titre de la CNCC sans que leurs droits sociaux ne soient garantis. André Katende Ngalamouloumé nous donne les détails dans ce reportage.
Depuis lundi, les ouvriers ont cessé toute activité, entraînant l'arrêt des travaux sur ces tronçons de la route nationale numéro 1, un axe stratégique pour le désenclavement de la région. Interrogé par nos confrères d'Espace Grand Kasaï TV, l'un des grévistes exprime le mécontentement des travailleurs. Aujourd'hui, nous sommes en grève. Cela fait 4 ans que nous travaillons sans contrat. Pourtant, chaque mois, on nous retire de l'argent pour la CNCS. Or, tant que nous n'avons pas signé des contrats, nous sommes considérés comme des journaliers. Alors, pourquoi ces retenues? Aucun travailleur n'est venu au chantier. Nous réclamons nos contrats. Les ouvriers appellent le gouvernement central à intervenir pour faire respecter leurs droits. Nos tentatives pour joindre les responsables de l'entreprise Arab Contractor citées dans cette affaire sont restées sans réponse. Kananga, André Katindingalamouloumé, Radio Okapi.
Et puis cette alerte du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. OCHA indique que la situation humanitaire en République démocratique du Congo demeure alarmante. Selon un rapport, le pays a enregistré 24,8 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, 5,3 millions de déplacés internes et 260 500 incidents de protection entre janvier et décembre 2025. Détail avec Nancy Tambo.
Ces chiffres traduisent l'ampleur d'une crise multidimensionnelle qui affecte profondément les populations civiles, en particulier dans les provinces de l'Est du pays, mais aussi dans plusieurs zones de santé de l'Ouest, selon la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. L'insécurité alimentaire atteint un niveau critique. Près d'un Congolais sur quatre peine à couvrir ses besoins alimentaires de base, ajoute cette structure. La situation est aggravée par la persistance des conflits armés, l'instabilité économique, les chocs climatiques et la hausse du coût de la vie. Les ménages les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées, sont les premières victimes de cette précarité croissante. Parallèlement, les déplacements forcés continuent de s'intensifier. OCHA recense 5,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, fuyant les violences armées, les attaques de groupes armés, les conflits communautaires et les catastrophes naturelles. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et le Tanganyika figurent parmi les province le plus touché. OCHA souligne l'urgence d'un renforcement de l'assistance humanitaire et d'une meilleure protection des populations affectées.
Entre-temps, membres de la société civile, autorités locales et des parlementaires sont sensibilisés depuis hier mercredi sur le nouveau mandat de la MONUSCO à Beni au Nord Kivu. Objectif, engager toutes ces personnes, près de 60 venues de Beni, Butembo et Lubero, dans ces processus de paix. Également au programme, la lutte contre la désinformation et la protection des civils pour soutenir la stabilisation des régions de Beni, Butembo et Lubero. Marc Marofimbo pour les détails.
Lors de cette première journée, les participants ont été sensibilisés au contexte du nouveau mandat de la MONUSCO, défini par la résolution 28-08 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu'au processus de paix en RDC et aux mécanismes ad hoc existants. Ils ont également été outillés sur les rôles de la société civile dans le processus de paix, ainsi que sur la participation de la jeunesse et des femmes aux différentes initiatives de paix en RDC. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Louis Karawa, a salué cette initiative, soulignant l'importance de la participation citoyenne dans la prise de décision.
Je salue l'initiative par la section des affaires civiles de la MONUSCO d'organiser cette session qui favorise la pleine participation de la société civile. Je réaffirme l'engagement des autorités provinciales à travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs ici présents dans le respect des lois de la République, des droits humains et des principes de bonne gouvernance.
Cet atelier qui se clôture ce jeudi sera sanctionné par l'élaboration d'un acte d'engagement et par la définition des stratégies et des mécanismes visant à renforcer la participation des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec handicap dans le processus de paix. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Quatre personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessées mardi dernier lors des affrontements entre la police et un groupe de bandits connus sous le nom de Kuruna dans la cité de Panou, territoire d'Idjofa. Nous sommes bien dans la province du Kwilu. Les bilans fait état de deux policiers et deux civils tués. Selon des témoignages recueillis sur place, les violences ont éclaté après l'arrestation des chefs des gangs, provoquant des représailles de la part des bandits. La situation a entraîné la fuite de nombreux habitants de la cité, certains ayant trouvé refuge dans la forêt. Le député provincial d'Idjofa, Nicolas Mbuka, appelle les autorités à diligenter une enquête pour faire la lumière sur cette tuerie. On l'écoute au micro de Jean-Claude Tangamo de la radio communautaire Radio-Télévision Bandundu Développement.
Ils ont arrêté l'un d'eux, les gangs selon l'information à notre possession, et les Kuruna à leur tour n'ont pas laissé leurs frères aller comme ça. Ils se sont aussi attaqués aux éléments de la police. Les échauffeurs ont fait état de 4 morts, 2 du côté de la police et 2 du côté civil. À l'air qu'il est, la population n'est pas calme. Il y en a qui ont passé la nuit en forêt parce que la police commençait à arrêter n'importe qui sur la route. Et beaucoup sont allés de l'autre côté de la rivière vers Maïndo, mais ils sont dans des bancs de sable. En tout cas, il n'y a pas la quiétude à l'air qu'il est au niveau de Panou. En tant qu'élu du peuple, nous demandons qu'une enquête sérieuse soit faite parce que c'est pas la première et ça risquerait de causer mort d'homme. À Kimputu, c'était le cas. Et aujourd'hui, c'est à Panou. C'est vraiment regrettable de notre côté. Donc, nous interpellons le gouverneur ainsi que le service de sécurité de faire le travail comme il se doit. Nous aussi, de notre côté, en tant qu'élu, je vais demander au président de l'Assemblée de mettre une équipe sur le terrain pour s'enquérir de la situation, pour savoir qui en est l'auteur et il faut sanctionner.
Autre nouvelle en Mbandaka cette fois, un groupe de personnes se présentant comme des citoyens révoltés grince les dents. Ils demandent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'ordonner la dissolution pure et simple de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Ils ont exprimé cette demande dans une pétition rendue publique au début de cette semaine devant la presse locale. Les pétitionnaires accusent l'Assemblée provinciale de s'immiscer dans la gestion des activités du gouvernement provincial. Reportage signé Askin Zigbia.
Ces citoyens ont déjà lancé une campagne de collecte de signatures auprès de la population de Mbandaka. Selon eux, plus de 25 000 signatures suffiraient pour exiger la dissolution de l'Assemblée provinciale de l'Équateur au regard de manquements graves qu'ils disent avoir observés dans l'exercice de fonction des députés provinciaux. Papi Ekate Ekofo, rapporteur de Citoyens Révoltés, énumère quelques dérapages documentés.
Il est constaté que les députés provinciaux se substituent illégalement à l'exécutif provincial. Ils procèdent à des remplacements arbitraires d'agents et fonctionnaires de l'État. Ils interfèrent dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des chefferies traditionnelles.
De son côté, l'Assemblée provinciale de l'Équateur estime que cette pétition n'a aucune valeur juridique permettant de provoquer sa dissolution, comme l'a indiqué son rapporteur Ezekiel Ambokani.
Les allégations laissant croire à un quelconque conflit entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant ne tiennent pas. Car, en réalité, la collaboration entre les deux institutions reste harmonieuse et orientée vers le développement intégral de la province.
Selon certaines indiscrétions en Mbandaka, plusieurs députés provinciaux se comporteraient comme des commissionnaires intervenant notamment pour faire recruter leurs proches au sein des institutions publiques.
Actualité internationale.
Mali-Sénégal vers une nouvelle crise des conteneurs. Plus de 4000 conteneurs vides sont bloqués au Mali et attendent d'être reconduits au port de Dakar. C'est ce qu'indique un communiqué diffusé mardi 3 février par le Conseil malien des chargeurs rattaché au ministère des Transports. En novembre dernier, ce sont les conteneurs pleins qui attendaient au Sénégal d'être livrés au Mali qui avaient suscité des tensions entre les deux pays. Le problème se pose donc désormais également dans l'autre sens. Il est principalement, mais pas uniquement, dû aux risques sécuritaires liés aux attaques djihadistes et pourrait avoir de graves conséquences.
L'invité.
La paye des salaires des enseignants en RDC reste un défi important. Dans la province du Haut-Lomami, par exemple, les enseignants du territoire de Malembankoulou revendiquent le paiement de leurs arriérés des salaires de 3 mois. Les territoires de la province du Kassai central et de beaucoup d'autres provinces ne sont pas épargnés. Certains enseignants n'ont toujours pas reçu leur salaire de mois de novembre et décembre 2025. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais de mercredi sont revenus sur cette problématique. On les écoute au micro des Guy Maté.
Madame Cécile Tshiombo, vous êtes secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle. Comment vous expliquez ces difficultés que les enseignants de la RDC connaissent depuis plusieurs années pour accéder à leur salaire?
Et depuis 2016, au lieu que le salaire arrive, comme prévu dans des écoles de proximité, et ce salaire n'arrive pas. Il faut à commencer par dire qu'il y avait des coupeurs des routes et que l'argent était confisqué par ces coupeurs. Il faut dire qu'il y avait l'argent qui était brûlé dans des pirogues. Mais lorsque nous menons les enquêtes, les pirogues étaient vides. Il n'y avait ni feu, ni sac d'argent qui s'était brûlé. Mais curieusement, nous comprenons et nous apprenons, même en face de certains responsables de l'IFOD, il nous avait été donné une réponse comme ceci, que l'État congolais a notre dette et en retour, l'IFOD a aussi une dette des frais de fonctionnement et aussi de la prime des écoles primaires. Vous allez trouver que il faut de payer les enseignants par délestage. Ça signifie que il arrive quelque part, il paye un territoire, il laisse un autre, ou soit, je prends un exemple. L'État congolais a payé 13 milliards quelques francs congolais. Mais quand l'IFOD arrive à Bokungu, il paye Bokungu novembre et décembre avec un manquant sur l'enveloppe salariale de 30 millions. Et vous allez comprendre aussi qu'il n'a pas versé, l'IFOD n'a pas versé les frais de fonctionnement et la prime. Nous proposons ceci. Il y a des banques qui doivent quitter la paye telles que l'IFOD. Nous proposons que Afriland quitte la paye. Il y a d'autres banques que, avec réserve, nous ne pouvons pas encore citer leur nom. Que l'État congolais a des moyens. Il n'a qu'à créer une banque où qu'il réfectionne Caritas ou les agences de la Banque centrale ou encore retourner dans des fins fonds de notre pays au comptable d'État.
Guy Marais Kamanji, vous êtes chargé des communications de la Caritas Congo Asbel. Impliquer les opérateurs téléphoniques qui sont présents sur toute l'étendue du territoire national ne peut-il pas constituer une solution à toutes ces difficultés?
Oui, tout dépend de la capacité d'opération de ces shops ou boutiques ou de ces agents qui sont sur le terrain. Très souvent, vous pouvez vouloir retirer 200 000 francs ou disons 500 000 francs, mais ces compatriotes qui a ouvert une boutique qui a les différents opérateurs de mobile banking peut ne pas avoir suffisamment d'argent pour servir 4, 5, 20 ou 100 enseignants. Donc il faut bien étudier cette question et peut-être la solution viendrait par ce déploiement des banques dans les territoires et puis mêler cette opération avec l'intervention de certains opérateurs, mais qui auront déjà eu la tâche facilitée par les banques de proximité.
Merci. Jean-Paul Aouidi, vous êtes professeur, vous êtes directeur du centre de recherche de l'Université pédagogique nationale IPEN en sigle. Qu'est-ce que vous proposerez au gouvernement pour améliorer justement ces processus de la paix des enseignants?
Ce que je peux dire au gouvernement,
c'est de considérer que les plaintes des enseignants n'est pas du théâtre. Et ce n'est pas parce qu'ils veulent que le gouvernement dise quelque chose en leur faveur qu'ils sont en train de hausser le ton. Et le fait de hausser le ton, c'est une manière de crier au secours. Venez à nous, parce que nous sommes en train de souffrir. Alors, fermer les oreilles, ce n'est pas une bonne chose. Et maintenant que tous ces enseignants sont en train de nous écouter, ils éprouvent un peu de la satisfaction, parce qu'au moins, on parle d'eux. Alors, nous aussi, nous ne pouvons pas les condamner. On ne peut pas condamner celui qui se plaint. Celui qui se plaint, il se rend compte qu'il y a un « ça ne va pas en lui ». Alors, le fait de les dire, nous devons aussi l'encourager. Parce qu'au moins, il vient de dire quelque chose, attirer votre attention sur moi. Alors, maintenant que le gouvernement fasse quelque chose de mieux pour qu'on puisse trouver des solutions, devant permettre à ce que les enseignants puissent avoir leur salaire. Et quand ils ont leur salaire, ils vont bien s'occuper maintenant des enfants qui sont à l'école.
C'est par cet appel que nous mettons aussi un point final à notre journal du matin, coordonné et supervisé par Lievin Mbwinga Vubu et mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est aussi disponible sur notre site internet www.radiokapi.net.